Bonsoir et bon début de semaine à tous. Clôture vendredi dernier à Kinshasa de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, placée sous le signe de l'éthique et de la discipline des magistrats. Parmi les recommandations, les participants conviennent de se doter d'un budget propre. Ils demandent au gouvernement d'accorder aux magistrats des avantages sociaux pour éviter des réclamations non justifiées. Comment analyser ces recommandations? Quel impact l'organisation de cette session extraordinaire pourrait avoir sur le fonctionnement de la justice en RDC? Pour en parler, nous recevons comme invité Maître Kalala Mwenampala. Il est coordonnateur de la cellule en charge de la réforme au cabinet du ministre de la Justice. Maître Kalala, bonsoir.
Bonsoir.
Sambaï Mutenda, président du syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC. Monsieur Sambaï, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Guy Mouchata, chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Maître Mouchata, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, le quatrième invité. Chers auditeurs et internautes, pour vos réactions, Katon pour de Lubumbashi au Katanga, le gouvernement congolais devrait faire de sorte que l'appareil judiciaire congolais soit autonome tant que tout dépend du pouvoir. Les efforts fournis par les juristes seront vains. Pepe Lisungi de Kisangani en province orientale, cette session du Conseil supérieur de la magistrature ne changera rien par rapport à la justice en RDC, car notre justice dépend des politiciens. Je souhaite que les magistrats travaillent d'abord librement avant de leur demander la discipline. Nous sommes lundi 27 août 2012. Merci de votre fidélité.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ici à Kinshasa, le Conseil supérieur de la magistrature a clôturé vendredi dernier à la Cour suprême de justice sa session extraordinaire placée sous le signe de l'éthique et de la discipline des magistrats. Plusieurs résolutions ont été adoptées, mais rien d'essentiel ne filtre de ces assises, étant donné leur caractère discrétionnaire réservé au chef de l'État pour entérinement. Jeff Ngoy pour les détails.
La session qui s'achève consiste en l'amélioration des conditions de vie des magistrats, de ceux qui se considèrent comme délaissés pour compte longtemps sans promotion de grade, ce qui vient d'être réalisé selon le président du conseil sans en donner un moindre détail. Les participants conviennent de se doter d'un budget propre. Ils recommandent au gouvernement d'accorder des avantages sociaux aux magistrats pour éviter des réclamations non justifiées. Ils résolvent d'incorporer dans le budget 2013 une prime à risque pour les magistrats éloignés et travaillant dans l'insécurité du fait de l'enclavement. Le Conseil adopte un critérium pour la désignation des trois magistrats de la future Cour constitutionnelle. La session vient également d'examiner les dossiers individuels des magistrats, notamment les 96 révoqués de 2009. Des propositions de nomination, promotion et mise à la retraite sont ainsi adoptées.
Merci Jeff Ngoy. Magistrat Sambaï Mutenda, je rappelle que vous êtes président du syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC. Vous avez pris part à cette session à titre d'observateur. Comment avez-vous accueilli l'organisation de cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature?
Présentation que vous venez de faire, il faut ajouter que je suis actuellement team leader aux fonctions publiques du groupe thématique de travail de la société civile. Comment ai-je trouvé que penser des recommandations faites par le Conseil supérieur? Je pense que en termes stricts d'interprétation, il y a des recommandations qui valent la peine, il y a d'autres qui relèvent de la loi et je ne pense pas qu'on puisse parler de recommandations. Je parlerai ainsi, par exemple, de la recommandation concernant le budget propre. Ça, c'est une loi qui sanctionne que le budget du fonctionnement de la justice soit comme tel séparé des autres allocations et que le Conseil supérieur soit doté d'un budget propre. Je ne pense pas que ce soit une recommandation. J'aimerais peut-être qu'on parle bien du respect de la loi, aussi bien par les politiques que les magistrats. Cela étant, comment ai-je trouvé d'autres recommandations, s'il vous plaît?
Oui, vous êtes en ligne, on vous écoute.
Ok. S'agissant de recommandations concernant l'éthique et la discipline, je pense même que s'il faut aussi parler de recommandations, c'est des termes non avenus, parce que les magistrats sont gérés par le statut et ils obéissent par essence à l'éthique et à la déontologie. Ça ne vaut pas la peine qu'on en parle. Si on en parle, c'est qu'on n'a pas su encadrer correctement les magistrats, ou que les magistrats n'ont pas été encadrés, ou qu'ils n'ont pas été mis dans les conditions appropriées pour qu'ils soient éthiquement et déontologiquement à même d'accomplir leur mission. Voilà comment, moi je pense que on a essayé de tourner autour du pot. Les choses sont claires. Il faut que dans le pays, nous puissions savoir ce que nous voulons faire. Est-ce que nous avons besoin d'une justice? Oui. Si c'est oui, il faut alors que les règles et les principes soient respectés en ce qui concerne la gestion de la carrière du magistrat. Que la loi soit respectée par les politiques, que la loi soit respectée par les magistrats, c'est leur mission. Je pense qu'il n'y a pas lieu de tourner autour du pot. Ce qu'il faut, c'est arrêter des critères de nomination et arrêter aussi des critères de suivi de chaque magistrat de manière à sanctionner tout, en bien ou en mal, tout celui qui est du côté de la loi ou qui est contre la loi. Voilà un peu ce que je peux dire a priori.
Alors quand vous dites qu'on a essayé de tourner autour du pot, cette session valait-elle finalement la peine d'être organisée?
Je pense même que la session ne valait pas la peine, sinon qu'elle va servir de couverture pour ce que les politiques veulent faire.
Et donc il fallait faire autre chose que ça?
À mon sens, si on tenait à la session, permettez que je vous dise que nous sommes à la troisième année que le Conseil supérieur est convoqué. Et pas une seule fois ce Conseil s'est réuni en Assemblée générale ordinaire. C'est toujours des assemblées extraordinaires. Et ces assemblées se tiennent pendant combien de temps? Comme la dernière ici. Elle était prévue pour cinq ou six jours. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans cinq jours en ce qui concerne la carrière du magistrat? En ce qui concerne les conditions sociales du magistrat, est-ce qu'on a eu le temps d'étudier les dossiers individuels des magistrats? Est-ce qu'on s'est penché suffisamment sur la discipline, sur les chambres de discipline qui devaient siéger depuis un an? Voilà pourquoi je dis, on a essayé de boutiquer une histoire, je pense, pour favoriser les nominations, encore une fois, des frères, des sœurs, des beaux frères, qu'est-ce que vous voulez, en dehors des critères légaux et réglementaires.
Alors, normalement, magistrat Sambaï, cette émission est également pédagogique. Normalement, oui. Dans une session ordinaire, comment les choses devraient-elles se passer?
Dans une session ordinaire, d'abord, on a suffisamment de temps pour étudier les dossiers individuels des magistrats. Cela peut durer plus ou moins un mois. On étudie calmement les dossiers des magistrats. Il ne faut pas qu'on se converse dans l'arbitraire. Parce que ce qui est en train de se faire maintenant, c'est je crains de dire que quelque part, il y a de l'arbitraire qui plane en l'air. Est-ce qu'on a eu le temps de suivre individuellement chaque magistrat pour savoir que les chambres de discipline ont statué sur tel cas et tel autre? Voilà un peu. Parce que le dossier du magistrat, ce n'est pas simplement une histoire qu'on prend qui a une page, non. C'est tout un dossier où on suit la carrière du magistrat. Ce magistrat a commencé sa carrière en quelle année? En telle année, est-ce qu'il a, en autant d'années, est-ce qu'il a été sanctionné disciplinairement? Non. Est-ce qu'en autant d'années, il a été coté? De quelle manière? Très bon, bon, médiocre ou quel... Voilà, tout ça, ça demande suffisamment de temps et il faut que chaque président ou chaque premier président du ressort donné qui se présente ait individuellement les dossiers bien alignés. Et cela, je vous rappelle que j'ai fait une proposition à l'époque où j'ai siégé au Conseil supérieur de la magistrature, j'avais demandé qu'on puisse avoir une banque de données. Si on avait cette banque-là, on pouvait bien siéger même dans 5 ou 6 jours. Mais cette banque-là n'a pas existé. Et pourquoi ça n'a pas existé? La recommandation ou aucune résolution n'a été prise à cette occasion-là.
Merci.
Ceux qui dirigent le Conseil supérieur ont rejeté cela d'un revers de la main. Voilà comment nous tournons en rond. Voilà un peu mon avis.
Merci, magistrat Sambaï. Maître Kalala Mouenampala, vous êtes coordonnateur de la cellule en charge de la réforme au cabinet du ministre de la Justice. Vous venez de suivre le magistrat Sambaï. Est-ce que vous partagez l'avis selon lequel cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature ne valait pas la peine, comme le dit magistrat Sambaï?
Bon, je ne pense pas que je puisse partager son point de vue de façon tout à fait globale. Je dirais ceci, que je prends acte de ce que un magistrat donne une position sur les travaux qui sont faits par ses collègues, par ses propres collègues, comment ça se passe dans la magistrature, ce qui se passe, nous avons suivi, mais j'ai retenu que ils se sont penchés sur la discipline, ils se sont penchés sur le budget, et le Conseil supérieur s'est penché sur la situation des magistrats, des promotions, j'ai entendu, des promotions, des mutations, mais je n'ai pas entendu que ces différents points qu'il y a eu également, que l'on puisse révoquer certains magistrats. Pour quelles raisons j'insiste là-dessus? Parce que la réforme, c'est sur le plan de l'éthique. Et nous sommes presque tous d'accord que ça ne va pas dans la magistrature. Et le magistrat Sambaï vient de donner certaines indications. Les promotions, nous les acceptons à condition, je suggère que on puisse tenir compte de certaines valeurs que nous avons dans notre pays pour maintenir notre justice au niveau de certains standards acceptables. Mais, comme on dit, dans tous les corps, il y a du bon vin et de l'ivraie. Et l'ivraie n'a pas sa place dans la magistrature, et il y en a. Et lorsque j'entends parler qu'il y a eu, on s'est penché sur les promotions, les mutations, les dossiers des magistrats, et on a presque peur de dire que il faudrait qu'à la suite de ces résolutions, ils puissent également aussi proposer que certains puissent être révoqués, les mauvais magistrats, de livrer, et que certains magistrats, les bons, puisse être promu suivant les critères tout à fait subjectifs.
Mais vous avez suivi le magistrat Sambaï qui dit l'étude de ce dossier, cette session extraordinaire n'a eu lieu que pendant 5 jours. C'est vraiment insuffisant pour traiter à fond les dossiers des magistrats.
Moi, je crois que les dossiers des magistrats sont entre les mains des différents présidents de la des cours des présidents des juridictions, des présidents d'office qui doivent faire le travail tous les jours. Ils ne doivent pas attendre que la session se tienne. C'est tous les jours que chaque chef d'office, chaque chef de juridiction observe le comportement de ses collègues. Il voit ce qu'ils font dans les dossiers, il enregistre ce qui se passe comme comportement, ce qu'ils enregistrent comme doléances contre leurs collègues. Et ça, ce sont des éléments qui doivent leur donner l'occasion de coter leurs collègues sans complaisance.
Alors, le magistrat Sambaï a également dit que c'est la troisième année où on n'a toujours pas une assemblée, on n'a toujours pas organisé des assemblées ordinaires, on est toujours en session extraordinaire. Il parle même d'une forme de saupoudrage. Y aurait-il des contingences politiques qui auraient encore pesé?
Non, moi je pense que on a tout le temps accusé les politiques d'interférer.
À tort ou à raison.
Mais moi, j'ai toujours dit ceci. Le politique qui intervient lorsque vous devez décider, rejeter, purement et simplement, parce que vous êtes libre. La loi vous reconnaît, vous êtes indépendant. Mais rejeter ces interventions. Et je ne vois pas pourquoi on doit chaque fois se décharger sur le politique. Le politique. Mais le politique, vous êtes indépendant dans la décision. Lorsque vous rédigez le jugement, vous êtes indépendant jusqu'au moment où vous signez votre décision. Je ne vois pas un politique qui viendra vous dire « Ne faites pas ceci, n'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Il y a des gens qui ont déjà reçu des instructions illégales. D'ailleurs, la Constitution le dit. L'article 28, je crois, lorsqu'il y a un ordre illégal, vous ne devez pas l'exécuter. Mais pourquoi on doit chaque fois rejeter la responsabilité sur les politiques? Mais résistez! Résistez, ayez la possibilité de résister. Ne dites pas, nous avons moins. Il n'y a pas que les politiques qui font les pressions sur les magistrats. Il y a également les privés.
Alors prenons cette réaction qui nous vient de Vienne en Autriche pour vous mettre Kalala.
Franck Mboni de Vienne en Autriche. C'est très bien de parler de réalité sociale et contextuelle dans laquelle fonctionne notre appareil judiciaire en République démocratique du Congo. C'est le souci de tous les Congolais avertis que notre appareil judiciaire soit doté de toutes les structures administratives et juridiques pour sa vraie indépendance. Mais seulement tant que la politique interne ne cessera de s'interférer sur cet organe judiciaire, tant que cet organe judiciaire restera inféodé et tant que certaines pressions politiciennes continueront sur la manière de rendre justice, rien n'ira. La justice chez nous, elle a plusieurs visages, plusieurs vitesses, elle a plusieurs facettes. Elle est rendue selon les sceaux du maire, selon les cartes auxquelles on appartient, et aussi, de nos jours, selon les états-majors d'obédience politicienne.
La justice se rend selon la tête du client, maître Kalala.
Je comprends, il est loin du pays et les réalités sont connues également aussi à l'extérieur, même ici chez nous. Nous ne devons pas nous voiler la face. Il y a, comme j'ai dit, du bon grain et de l'ivraie. Lorsque le magistrat a un dossier et qu'il a la loi, parce qu'il n'a sur lui d'autorité que la loi, lorsqu'il a le dossier, il doit fermer les oreilles et il ne doit pas aller dans l'Inganda ou n'importe où, aller fréquenter les politiciens pour dire comment est-ce que je dois faire. Il est indépendant. Il doit faire son travail. Et s'il ne le fait pas, il est en faute. Lorsque la loi dit ceci ou cela, et que vous voulez satisfaire à un politicien ou à quelqu'un qui vous donne l'argent, là vous êtes un mauvais magistrat et on ne peut que vous traduire devant le Conseil supérieur de la magistrature et éventuellement vous pousser à la sortie d'un corps d'élite comme celui-ci et un corps tout à fait noble, un corps des nobles. Lorsque, à l'extérieur du pays, voilà l'image qui vient de là, c'est que, ici, chez nous, il y a des magistrats qui posent de mauvais actes et qui nuisent à la réputation du pays. Cela, je le dis, le chef de l'État l'a déjà dit, comme dans tous les corps, dans la magistrature, il y a du bon vin et du bon grain et de l'ivraie. Et on doit pouvoir se pencher sur l'ivraie pour redorer l'image de notre pays en ce qui concerne la justice. Donc on doit plus porter l'attention sur les mauvais comportements pour pouvoir les redressé par la sanction.
Merci. Maître Guy Mouchata, vous êtes chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Comment vous analysez cette question, Maître Mouchata?
Merci beaucoup. Je pense que dans ce qui vient d'être dit, il faut retenir que, effectivement, jusque-là, on n'a pas eu de session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, et c'est très regrettable. Peut-être devrions-nous le mettre dans le compte d'un manque de budget adéquat. Et ce budget adéquat, je pense, doit être libéré par le ministère qui a les finances dans sa charge. Donc de ce côté encore, le manque d'autonomie, je dirais, budgétaire dans les faits, pas au niveau de la loi, mais dans les faits, le fait que le pouvoir judiciaire sur le plan du budget et de la libération de ces budgets dépend en pratique de l'exécutif pose problème. Et nous avons cessé de dire qu'il faut donner les moyens suffisants au Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il fasse son travail. Mais de l'autre côté, j'aurais souhaité qu'effectivement, lors de cette session, même si elle a duré un tout petit peu de temps, qu'on mette exactement davantage l'accent sur les mesures d'application de mesures disciplinaires. Je vais vous donner un tout petit exemple. J'étais dernièrement en Bandaka et pendant que j'étais là, je pense qu'il y a eu une mission du parquet général de la République qui est descendue jusqu'à Guémena. Mais je suis revenu à Kinshasa, ça ne fait pas très longtemps, il y a un cas assez emblématique qui illustre la situation qui se passe dans notre système judiciaire. Tenez, une maman dont la fille a été violée, une fille mineure, s'est rendue au parquet pour que le dossier, n'est-ce pas, soit enregistré et que la personne présumée auteur soit poursuivie. Effectivement, cette personne a été arrêtée. Il a été demandé à cette maman une somme de 10 000 dollars. Figurez-vous, peut-être ici à Kinshasa, ça ne représente rien, mais là, c'est beaucoup d'argent. La maman a déboursé cette somme de 10 000 francs. Et les 10 000 francs payés au magistrat du parquet étaient censés servir pour la procédure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les magistrats, dans son procès verbal, a minoré l'âge du violeur, les libérant même. Et quand la maman, qui tournait en rond autour du parquet au jour le jour, est allée voir les magistrats pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans ces conditions, puisque tu as libéré l'autre partie, et tu es soi-disant que c'est une personne mineure, au lieu de l'envoyer devant le juge d'enfant, tu l'as libéré, rends-moi les 10 000 francs que tu m'as pris. Les magistrats s'est mis à injurier la dame. Et conséquence, la dame irritée de ces gestes quotidiens, s'en est pris au magistrat. Et elle est même venue à déchirer les habits. La pauvre dame, qui n'a pas pu avoir accès à la justice à ce niveau, c'est elle qui s'est retrouvée devant le juge, condamnée pour outrage et appelée à purger 10 jours de prison. La peine est terminée, elle copie encore parce que le ministère public a interjeté appel. Imaginez-vous, on est dans quel pays où ceux qui détiennent, n'est-ce pas, le pouvoir de dire les droits s'en servent pour leur propre compte. Mais ce qui est plus grave, parlons de la discipline, c'est que l'autorité hiérarchique du magistrat n'agit pas, il reste là et soutient l'action contre cette dame. Vous voyez, monsieur le journaliste, dans quel pays nous nous trouvons? Je pense que ce qui est important, au-delà des avantages sociaux, tout cela c'est bien, c'est important, mais on peut donner des avantages sociaux. Si les magistrats développent un esprit corporatiste et font en sorte que ceux qui détiennent l'autorité ne poursuivent pas ou ne mettent pas, ne prennent pas des actions disciplinaires à l'égard des autres qui leur sont, qui doivent superviser, je pense qu'on sera toujours dans une situation difficile.
Voilà, Maître Mouchata, nous allons prendre cette réaction qui nous vient de Goma en Nord Kivu pour vous.
Franck Kanda de Goma, dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Même si l'on répondait aux revendications des magistrats congolais, les derniers seront toujours susceptibles de recourir à la corruption, tant qu'ils ne seront pas sanctionnés conformément à leurs agissements dans l'exercice de leurs fonctions de magistrats.
Ah, c'est pratiquement dans le même sens que ce que vous avez dit, Maître Mouchata.
Effectivement, je pense que le vrai travail, vous savez, l'argent, tout le monde en a besoin. Et en économie, on dit toujours que les besoins sont insatiables. Il est vrai que les magistrats doivent être mis dans les conditions de travail qui lui permettent vraiment de dire les droits. Mais il n'est pas évident que même mis dans des conditions qui sont supérieures aux autres personnalités, qui avec les mêmes grades, les mêmes niveaux de compétences, les autres Congolais, il n'est pas évident que les magistrats, dans la situation actuelle où l'indiscipline règne et que ceux qui sont censés prendre des actions disciplinaires ne les font pas, et tout à l'heure vous avez entendu un magistrat lui-même se plaindre de la non-opérationnalisation des chambres de discipline, mais c'est très grave. On peut donner de l'argent, on peut améliorer les avantages, mais je pense qu'il faut voir la situation de manière globale, que la magistrature, que le Conseil supérieur de la magistrature commence d'abord par justement analyser pourquoi il y a tant d'indisciplines. Et là, quand même, c'est une responsabilité. Pour certaines questions, ils disent, nous n'avons pas d'indépendance, les politiques viennent s'imposer à nous. Mais pour ce qui concerne leurs propres devoirs, leurs propres responsabilités, aussi bien au sein des juridictions que des offices, que font les autorités hiérarchiques? Où est passé, n'est-ce pas, le sens d'encadrement, le sens de responsabilité face aux obligations auxquelles ils sont soumis? C'est ça la grande question. Tant qu'on n'aura pas un contrôle interne avéré, on constatera toujours que les uns et les autres se comporteront
comme ils le font maintenant.
Merci.
Et tout cela au détriment des justiciables que nous sommes.
Merci Maître Mouchata. Les magistrats interpellés sur le laxisme et la léthargie dans le traitement des dossiers judiciaires, c'était à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature vendredi 17 août dernier à la Cour suprême de justice ici à Kinshasa, devant plus d'une centaine de magistrats, du Premier ministre et des corps constitués. Le président du Conseil a rappelé aux magistrats leurs devoirs et des sanctions disciplinaires en cas de récidive. Jérôme Kitoko Kimpele au micro de Jeff Ngoy.
Les magistrats, il a encore un devoir de diligence dans l'exercice de ses fonctions. Cela doit se traduire par la ponctualité au service et la promptitude dans l'accomplissement de cette tâche. Il doit être conscient que sa décision est entendue dans un délai raisonnable et que sa négligence ou son laxisme dans le traitement des dossiers ne peut qu'avoir des répercussions négatives pour les partis et dans certains cas sur l'ordre public. J'ai saisi cette occasion pour interpeller tous ces magistrats ironiquement qualifiés des congélateurs, frigo ou chambre froide pour les justiciables, du fait des manques criants de diligence dans le traitement des causes qui leur sont confiées et qui n'attendent que le moment des inspections pour libérer des dossiers souvent pour les juges en rendant des simples jugements vendus droit qui ne font que prolonger les procédures.
Magistrat Sambaï Mutenda, quel est votre commentaire par rapport à ces propos? On entend parler des magistrats congélateurs, frigo, voire même chambre froide.
Je pense que c'est pas la première fois que, au sein de notre syndicat, nous décrions toutes ces pratiques odieuses-là. Et c'est, je pense même que c'est pour ça que le syndicat autonome des magistrats est indexé. Nous avons toujours insisté sur l'exemplarité qui devait exister au sein du corps. Est-ce que les politiques, quand ils procèdent aux nominations de ces magistrats-là, à quelque niveau qu'ils soient, est-ce qu'ils cherchent à savoir si tel qu'on va nommer premier de ceci, premier avocat de ceci, premier président de ceci, ou président de ceci, ou procureur de cela, est-ce qu'on songe à scruter leur dossier, à éplucher leur dossier pour savoir s'ils ont toujours été disciplinés, s'ils ont été toujours bons magistrats? C'est là le grand problème qu'il y a dans notre pays. Et nous avons toujours décrié cela que nous avons qualifié de favoritisme. Nous avons ce problème-là, il demeure. Bien sûr, je viens d'entendre les avocats parler, mais c'est pour la plupart du temps aussi les mêmes avocats qui encouragent ça. Je vais vous donner un exemple. Pendant que nous, en 2004, on se battait pour la discipline au sein du corps, nous sommes descendus dans un tribunal, le tribunal de grande instance de la Gombe. J'ai vu un avocat tirer un juge, donc c'est deux malfaiteurs, derrière un bâtiment pour aller siéger. Vous vous imaginez? Pendant que nous cherchions à voir le corps discipliné, valorisé par des gens qui ont de la personnalité. Donc, vous savez, nous avons ce problème-là d'exemplarité dans notre pays. Nous voulons que les magistrats s'assument en respectant les textes. Nous voulons aussi que les politiques s'assument en respectant les textes. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que hier, tous les magistrats venus de tous les ressorts ont été chassés des hôtels où ils résidaient? On m'a parlé de la tenue des assemblées générales qui importe peu. Ben, je ne sais pas si nous sommes sérieux quelque part. Vous savez que les magistrats ne sont pas nommés que dans un ressort. Ils font le tour des ressorts et plusieurs ressorts parfois. Un magistrat qui a commencé sa carrière à Bukavu peut la terminer dans le Bas-Congo. Vous pensez que celui qui le suit aujourd'hui au Bas-Congo a le passé, connaît le passé du magistrat qui était à Bukavu? Voilà pourquoi j'ai insisté sur le temps. Ou nous faisons des choses sérieusement, ou nous bâclons tout, alors nous nous en prenons à personne. Vous comprenez? Je reviens encore sur cela. L'exemplarité. Nous nous battons, et nous nous sommes battus d'ailleurs lors du recrutement des magistrats. Si vous avez donné seulement un petit morceau du discours du premier président de la Cour suprême et président du Conseil supérieur, vous n'avez pas abordé l'aspect, disons, le paragraphe où il a parlé de nouveaux recrues qui se promènent déjà dans des voitures, même dans plusieurs voitures. Or, lors du recrutement, qu'est-ce que le CINAMAC avait dit? Je pense que celui qui a parlé, maître parlé du corporatisme, je pense que le mot est mal placé. Le syndicat autonome s'est toujours battu pour les valeurs.
Merci.
Et c'est pour ça que ce syndicat est indexé jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde, les politiques comme certains magistrats, veulent le combattre et combattre ses dirigeants.
Merci.
Bien connu.
Magistrat Sambaye, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu Sud Kivu. Je vous demanderai une brève réaction.
Moi, c'est Julien Aganze Machal, ici de Kivu, dans la ville de Bukavu. Je pense que le problème de la magistrature ne résiste pas au niveau des grades ni des salaires, car nos enseignants, même ceux de l'école humanitaire, reçoivent 56 000 francs, mais ils nous fournissent des enseignements qui nous permettent d'accéder aux études universitaires. Donc, je suis en train de comprendre que le problème de la magistrature ne résiste pas au niveau des salaires ni des grades, d'autant plus que ce qui est primordial dans cette affaire-là, c'est la conscience professionnelle. Vous voyez, lorsque notre magistrature n'est pas libre et indépendante, allez voir une main qui s'impose dans la décision de la Cour, des procès qui ne sont pas équitables.
Brève réaction, magistrat Sambaye.
Oui, je pense qu'il y a à boire à manger dans son intervention. Je ne vois pas, la comparaison elle n'est pas toujours raison, mais j'aimerais dire ceci à notre auditeur, que nous ne devons pas nous contenter de rester pauvre indéfiniment. Nous ne devons pas non plus éviter d'être moralisés à chaque occasion que cela est possible. Nous insistons sur ceci. La pauvreté, oui, dans le travail. Dans le travail aussi, l'éthique et la déontologie.
Merci.
Mais ce n'est pas parce que on est pauvre qu'on doit mal faire. Non, on peut être fort,
merci.
Faible et bien faire. Mais nous n'encourageons pas la pauvreté.
Merci magistrat Sambaye. Le temps de donner la parole à maître Kalala Mwenampala. Maître, le magistrat Sambaye a également fustigé l'attitude de certains avocats.
Et là, je suis tout à fait d'accord. Parce que le mal, lorsqu'on reproche au magistrat certains mots, il y a des avocats qui sont à la base de cela, il faut le dire tout haut. Et on est arrivé même jusqu'à qualifier certains magistrats de esprit de mort dans le corps disons, au barreau.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y a des avocats qui font ceci. Vous avez un problème en justice. Cet avocat vient vers vous. Alors que vous avez peut-être déjà un avocat de votre choix, il vient vous offrir ses services, ce qui est interdit par la profession. Il vient vous offrir ses services. Lorsqu'il va intervenir pour vous, il va créer la zizanie entre l'avocat de votre choix, il va créer la zizanie dans la défense organisée par l'avocat de votre choix, de sorte que la contradiction qui va en résulter va profiter à la partie adverse. Ça, nous l'avons déjà constaté et nous avons déjà été même victimes. Donc, lorsque le magistrat Sambaye parle de la participation des avocats, il a tout à fait raison. Et il ne peut pas être reproché de le dire tout haut. Il faudrait qu'au niveau du barreau, on change également les habitudes des avocats et ils doivent être sanctionnés. Parce que, si vous ne le savez pas, il y a des avocats qui vont devant les cours et tribunaux pour tromper les magistrats, pour amener des artifices. Et au lieu d'invoquer la loi, au lieu de ne voir que la loi, il y a tout un tas de tournures qui sont montées pour justement tromper ou alors offrir aux magistrats une occasion de violer la loi. Et ces avocats-là, et ces magistrats qui les suivent, en principe, doivent être poursuivis par les différents organes qui sont chargés de la discipline au sein de la magistrature, au sein du barreau. Et ce travail-là ne semble pas être fait à la satisfaction de la population, parce que ces avocats qu'on appelle esprit de mort continuent, et des magistrats aussi que nous pouvons appeler aussi esprit de mort, ceux-là qui violent la loi, ils sont toujours là et ils continuent à exercer. Parfois, ils ont même des promotions. Et nous demandons à ce qu'ils soient à chaque fois dénoncés lorsqu'ils ont violé la loi et que les autorités ordinales ainsi que ceux de la magistrature puissent sanctionner jusque même à la révocation lorsqu'il s'agit des magistrats. Parce qu'il ne faut pas que l'on craigne que voilà, on révoque les magistrats ainsi de suite. Ceux qui sont dedans, ils doivent être extirpés de la magistrature. Monsieur Samba, il vient de dénoncer là le comportement de certains magistrats qui viennent à peine d'entrer, qui ont ceci, qui ont cela. Certains autres aussi, anciens, qui ont ceci ou cela, des buildings, je pourrais même aller plus loin pour exagérer. Mais ça ne correspond pas à leur salaire. Il faudrait que cela cesse. C'est cela l'éthique, et nous pensons même que on doit avoir espoir sur notre jeunesse, que elle au moins, elle pourra changer des habitudes et revenir aux bonnes habitudes. Ceux qui suivront Merci. Les mauvaises habitudes, ils doivent être sanctionnés, absolument.
Maître Guy Mouchata, avec vous, on aborde la deuxième partie de cette émission. Quel impact l'organisation de cette session extraordinaire pourrait avoir sur le fonctionnement de la justice en RDC? Il y a des auditeurs qui ont leur avis, et c'est le cas de Robert Bahomé de Bukavu Sud Kivu qui dit: je ne pense pas que la matérialisation de toutes ces recommandations issues de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature puisse réellement avoir un impact positif sur le fonctionnement de la justice en RDC. Dans tout ceci, le grand problème, c'est le problème d'homme, c'est-à-dire le problème de mentalité, une mentalité qui nécessite absolument un changement positif pour espérer une bonne administration ou un bon fonctionnement de la justice. Quel est votre point de vue, Maître Mouchata?
Merci, mais revenons d'abord à ce que M. Samba a dit. Je n'ai pas voulu, en parlant du corporatisme, indexer les syndicats, mais c'était plutôt pouvoir indexer les autorités judiciaires qui ont en charge la mise en œuvre des actions disciplinaires et qui ne le font pas. Mais quant à l'opinion ou l'avis de notre auditeur, je pense qu'il pose là un véritable problème qui gangrène toute la vie, je dirais, sociale en RDC. Il y a toujours un grand hiatus entre ce qui est affirmé et ce qui est fait. Mais je pense, à mon avis, que effectivement, la justice fait face à un problème des moyens, et il faut trouver des moyens pour les donner à la justice, mais pas laisser l'exécutif gérer les moyens qui sont consacrés à la justice. Mais et même lorsque les moyens seront donnés au Conseil supérieur de la magistrature, s'assurer des mesures d'encadrement pour que ce qui se passe maintenant ne se répète pas. Que ces moyens, non seulement en termes des avantages sociaux, non seulement en termes des rémunérations, mais aussi en termes des moyens de fonctionnement, de la logistique de fonctionnement pour les enquêtes, pour le fonctionnement normal des bureaux et des offices et des juridictions, que ces moyens aillent effectivement là où ça doit partir et que le fonctionnement de la justice soit un fonctionnement assuré de manière normale et de façon régulière. Ça, c'est un élément important. On ne peut pas vouloir la justice a un coût, on ne peut pas la vouloir et en même temps ne pas doter les systèmes judiciaires de moyens conséquents. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais l'autre aspect qui est abordé par l'auditeur, c'est l'aspect maintenant du fonctionnement interne. Et quand il parle d'un problème d'hommes, nous savons que partout où il y a des hommes, c'est-à-dire que lorsque vous avez deux hommes, il faut qu'il y ait des règles de fonctionnement. Si vous êtes seul, vous êtes libre de vouloir faire ce que vous voulez dans un espace donné, mais lorsque vous êtes déjà à deux, il doit y avoir des règles de fonctionnement. Et maintenant, lorsqu'on voit les niveaux de pouvoir que détient ceux qui sont censés dire les droits, c'est-à-dire notamment le pouvoir de pouvoir arrêter les gens, de les incarcérer, de mettre fin à la liberté des uns et des autres, que ce soit de manière temporaire ou de manière définitive, je pense que ceux-là doivent être soumis à des règles de contrôle strictes. Sinon, à quoi sert-il d'avoir une justice? À quoi sert-il de donner un pouvoir si exorbitant à des individus qui n'ont pas, qui ne sont pas contrôlés, qui n'ont pas le niveau de déontologie ou ne veulent pas mettre en œuvre les règles déontologiques nécessaires. Mais et là, nous parlons justement aussi bien des magistrats, mais aussi, tout à l'heure, M. Samba a parlé de l'attitude des avocats. Effectivement, toutes ces attitudes sont mauvaises et il faut les fustiger. Parce que la justice ne peut pas fonctionner aussi sans les avocats. Sans les autres, nous parlons des magistrats, des avocats, mais il faut voir aussi les autres auxiliaires de la justice, les greffiers et autres.
Maître
Mouchata. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, soutenir une action judiciaire jusqu'à la fin, ce n'est pas seulement les magistrats, ce n'est pas seulement l'avocat qui développe des attitudes qui sont contraires à la loi, mais il y a aussi tous ces auxiliaires de la justice qui sont là
comme des commerçants, alors qu'à la fin du mois, l'État leur paye quelque chose, on me dira que ça ne suffit pas, mais il ne dit nulle part que si ça ne suffit pas, il faut aller chercher ça aux mains des justiciables. Cela n'est pas légal. Donc, on doit prendre des mesures disciplinaires pour que le fonctionnement de la justice soit un fonctionnement qui satisfait les justiciables.
Maître Mouchata, vous dites que la justice a un coût et qu'il y aurait des problèmes, un problème de moyens. Il y a Lambert Mwamba de Mbujima au Kassai Oriental qui dit, pour moi, il y a risque qu'il n'y ait plus d'impact du tout, car nous connaissons bien notre gouvernement, surtout en ce moment où il y a d'autres priorités, la guerre et l'insécurité à l'Est. Par ailleurs, ce problème devrait avoir sa solution dans son ensemble, c'est-à-dire en y incluant l'amélioration de la situation socio-économique et salariale de tout le monde qui est payé par l'État congolais. Décidément, on risque de continuer au même rythme sans qu'il n'y ait de changement, en guise de conclusion.
Monsieur le journaliste, je pense que la justice est un attribut de souveraineté. Et si aujourd'hui nous avons des problèmes, ça et là, des individus qui se permettent d'entrer en forêt, ils se réveillent un bon matin, prennent une partie des éléments qui sont payés par le gouvernement et entrent en forêt, c'est parce que justement nous n'avons pas pris le temps de soutenir notamment la justice. Il n'y a pas la paix sans la justice. Et si les individus d'hier qui sont allés en guerre et n'ont pas été sanctionnés, quelle en est la conséquence? C'est que l'impunité va se perpétuer. Tous ceux qui ont fait la guerre depuis, je sais pas moi, 97, 98, jusqu'au jour d'aujourd'hui, combien avez-vous vu qui ont été poursuivis en justice?
Merci. Merci. Alors, merci, merci Maître Mouchata. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer. Magistrat Sambaye, vous émettez déjà des doutes quant au résultat de cette session. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose finalement en guise de conclusion?
Je maintiens ma position parce que depuis longtemps, je lis, je le répète, il manque dans notre pays de volonté politique d'avoir une justice véritable. Pourquoi? Parce que tout le monde y puise, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde trouve son compte dans ce désordre-là entretenu au sein de la justice. Les magistrats y trouvent leur compte, les politiques y trouvent, surtout les politiques y trouvent leur compte. Voilà pourquoi la justice congolaise est restée pauvre jusqu'à ce jour. Alors, quelle conclusion tirer? Nous avons besoin d'hommes de bonne volonté. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les moyens, comme Maître Mouchaka dit, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Allez au Parlement, il y a des huissiers qui touchent plus que des magistrats. Vous comprenez? Donc
merci.
Il y a les moyens sont là pour que la justice fonctionne, mais les politiques s'arrangent pour que cette justice ne fonctionne pas.
Merci.
Car en réalité, si la justice fonctionnait, beaucoup de politiciens se retrouveraient en prison.
Voilà. Merci magistrat Sambaye. Maître Kalala, tout le monde trouve son compte dans ce désordre.
Non,
quelle est votre conclusion?
Non, on ne doit pas continuer à accepter cela, on doit réagir de façon tout à fait sévère. Et lorsqu'on parle de la volonté politique, moi je pense que il faut plutôt capter tout ce que le président de la République dit à la fin de l'année lorsqu'il s'adresse aux parlementaires et sénateurs réunis
en
congrès. C'est cela la volonté politique. Et que dit-on? À ce niveau-là, il faudrait que le magistrat fasse son travail conformément à la loi. Et même le cardinal Mosengo a dû à le dire aux magistrats, aux alizouzi, teleme ongenge na mwinda mwa Christo. Donc il faut respecter la loi et on va vous honorer. Et je pense que mon dernier mot c'est de dire, les magistrats doivent améliorer leur comportement, sinon la sanction, elle doit être permanente, celle de les poursuivre, de les condamner.
Merci.
Et de les extirper de la magistrature qui est un corps noble.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Guy Maté, Samuel Kachak m'ont aidé à vous présenter cette émission sous la supervision de Julien Nyamouini, Paul Badianyama et Bob Landou était à la technique. Coordination et présentation, Alain Hiroum Mouchige. Au revoir.